m'étonnes avec le temps qu'il fait.
Vous voulez boire un verre?
Volontiers.
Oh Adrien, tu me sers deux pastis.
C'est très chaud, non?
Pierre transpire de partout.
Tu gourdes, oui.
Et alors, vous voulez pas prendre le pastis?
L'apéro, le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Je pense qu'on peut démarrer là.
À ce qu'on les cache par décence, d'autres le font parce que c'est leur choix. Certains les perdent et ça les stresse, et là je pense à mon grand frère, coucou Florent. Certains n'en ont plus et ils s'en battent les couilles, et là je pense à mon père. Cet été, c'est ma grand-mère qui s'est rasée la tête et j'avoue, j'étais stressée. J'étais stressée parce que j'avais peur de voir afficher la marque de sa maladie, comme si, après ça, il n'y aurait plus aucun retour en arrière possible. Se raser le crâne à 76 ans pour une dame qui toute sa vie a été coquette comme jamais, je le sentais pas vraiment. Mais arrivée au moment M, je me suis laissée porter par un paquet de gens bienveillants qui étaient là pour accompagner ma grand-mère. La coiffeuse qui nous a appelés en nous disant sans tabou, les filles, venez voir, votre grand-mère a un crâne parfait. Ma petite sœur qui a su comme d'habitude désamorcer la situation un peu délicate et me faire décompresser la cervelle. Et puis mon père qui au téléphone et à coup d'humour a savamment dit à ma grand-mère « Bienvenue au club des crânes rasés ». Il nous a aussi raconté la première fois où il est sorti de chez le coiffeur avec le crâne chauve, avec l'impression que tous les gens dans la rue le dévisageaient. Faut dire que mon père, 1m88, une boucle d'oreille à gauche et des tatouages, en tenue de chantier, le crâne rasé l'a pas forcément rendu plus avenant. Moi je me souviens pas de son passage au crâne chaud, j'étais trop petite. Je me souviens simplement qu'il s'est foutu de ma gueule toute mon enfance en me disant que c'était les petits oiseaux qui avaient picoré ses cheveux. Et moi j'imaginais des rouges-gorges danser au-dessus de sa tête. Je me souviens aussi qu'il me répétait tout le temps en vacances quand on se baignait « Tu peux pas savoir le bien que ça fait de se mouiller le crâne ». Je pensais pas en fait avoir un si long historique avec des histoires de cheveux avant d'écrire cet édito. Faut croire que ce qui est sur notre tête est presque aussi important que ce qu'on a dedans. Bonjour à toutes, bonsoir à tous. On a une heure devant nous dans l'apéro et on va aller un peu plus loin que mes histoires personnelles sur le cheveu et on va parler du cheveu politique. Car oui, comme tout, le cheveu est politique. Et ce n'est pas notre invité qui dira le contraire. Nos cheveux sont parfois le lieu d'un combat social et culturel. Yacine Alami de... Alors là, je vais mal le dire. Je dirais Harash.
Très bien dit.
Ok, de Harash is Beautiful. Le mouvement de revalorisation des cheveux naturels par et pour des Nord-Africains et Nord-Africaines est avec nous en studio et on en parle dans un instant. Et en deuxième partie d'émission, on restera dans la déconstruction politique puisqu'on recevra les Tropicantes, un festival qui veut piquer les idées reçues. Margot de Villedeux et Tara Singh, alors là je veux encore écorcher les noms, seront là pour parler avec nous de ce festival engagé et étudiant qui entend décortiquer les aléas du monde du développement avec le beau slogan « Les dessous de la paix ». Et comme un bon apéro ne serait pas sans mes acolytes de toujours et même si je n'ai plus aucun pouvoir hiérarchique sur eux, Elodie est quand même revenue, elle nous parlera des problèmes existentiels des hommes qui se teignent les cheveux. Il n'y aura pas que des mots, bien sûr, comme toujours, il y aura une belle programmation musicale et je n'ai aucun mérite pour celle-là puisque c'est Adèle, notre réalisateur, et Yacine, notre invité, qui ont choisi les chansons. Mais c'est pas grave, c'est parti pour une heure d'apéro.
Bon alors, Michel Obama, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Ça m'embarrasse un peu, j'avoue, mais il a certainement ses raisons, je pense. Michel Obama a fait 8 ans à la Maison Blanche avec son cheveu défrisé, mais... pas des moines avec des coiffures très européennes, aucune allusion à des coiffures africaines, des coiffures en noir, des coiffures tressées, même défrisées. Bon. Et quand je l'ai vu avec les cheveux crépus, je me suis dit, bon, ben tiens, au moins ça, c'est clair, elle a décidé de le faire. Mais ce qui me surprend, c'est que ce soit après la période de, on dira politique, de sa vie de femme, d'homme politique. En exercice, mais en même temps, je pense que ça aurait été une sacrée, comment dirais-je, un sacré fardeau pour elle d'assumer ce cheveu crépus non défrisé, donc à l'état naturel, plus la politique de son mari. Je pense que ça aurait pu être aussi un problème d'état.
Comment un cheveu pourrait créer un problème d'état, ce qu'on vient d'entendre? C'est un extrait du premier épisode du podcast Moonwalk, que j'aurais pu le diffuser en entier tellement il est génial. Allez l'écouter, il est dispo sur SoundCloud. En tout cas, Yacine, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Elodie.
Bonsoir.
Avec ton acolyte Yacine, donc ton acolyte Samia Sadani, tu as créé, je vais redire, Harash is Beautiful, un mouvement de revalorisation du cheveu naturel chez les personnes nord-africaines. Ce mouvement, on le retrouve notamment sur Facebook, où vous êtes beaucoup présents, avec beaucoup de publications, de témoignages d'inconnus qui parlent de leur propre rapport à leurs cheveux. Et vous partagez aussi des liens, du contenu en rapport avec votre mouvement. Alors déjà, on va commencer par la base. Qu'est-ce que ça veut dire, Harash?
Alors, Harash, que tu prononces super bien, c'est un mot en fait en Darija, donc en dialecte arabe, dialecte nord-africain, surtout Maroc, Algérie, Tunisie, qui désigne en fait le cheveu un peu rugueux, un peu crépus, un peu frisé, un peu sec. C'est un peu un mot fourre-tout par rapport aux cheveux. Il est surtout utilisé de façon péjorative. Quand on dit « t'as les cheveux harash », en gros, ça veut dire que t'as des cheveux qui sont pas vraiment beaux, qui sont moches et que tu devrais les couper, quoi.
Donc, il y a une connotation déjà dans le mot, dans ce mot-là.
Exactement. En fait, la connotation, elle est à la base négative. Nous, on a choisi de reprendre ce mot et d'essayer d'inverser, en fait, cette connotation et de dire, qu'en fait, les cheveux que vous considérez comme harash peuvent être beaux aussi.
Est-ce qu'il y a d'autres expressions, donc en arabe ou dans des dialectes dérivés de l'arabe, qui portent aussi des connotations négatives, peut-être des expressions qui dévalorisent les personnes qui portent les cheveux naturels ?
Ouais, il y a quelques mots. Je pense surtout à je ne vais pas prononcer là, mais des cheveux électrifiés. Il y a un mot en arabe qui parle de ça. C'est un mot aussi qui revient souvent aux personnes qui ont les cheveux crépus ou frisés. Mais vraiment, harash, c'est le plus commun et c'est celui qui parle le plus à toutes les personnes d'origine nord-africaine en France ou au Maghreb.
Et nous, par exemple, en français, on dit, moi, c'est le seul mot que je connais, c'est crépus. Est-ce que, déjà, pour toi, crépus aussi, ça a des connotations ? Est-ce qu'il est totalement neutre comme mot ?
C'est vrai qu'il y a une connotation quand même, suivant par qui il est utilisé et dans quel contexte. Mais sinon, de base, le mot crépus, moi, je me l'approprie sans aucun souci.
Pas de problème. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, vraiment le contenu de votre asso, enfin initiative, vous l'avez lancé début avril de cette année. Donc ça fait quelques mois déjà. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez organisé quoi ? Je crois des réunions ?
Exactement. Donc on a fait la première conférence inaugurative du mouvement au mois d'avril. Donc avec Samia Saadani et avec une invitation qu'on avait donnée à Aline Tassit de Boucle d'Ébène, une personne avec qui j'ai beaucoup, beaucoup parlé des cheveux et qui m'a même pas mal informé là-dessus et pas mal formé même, je dirais.
C'était déjà un mouvement dans ce sens.
C'est ça, donc en fait, Boucle d'Ébène, c'est aujourd'hui un salon de coiffure et ce sont des personnes, enfin un groupe de personnes précurseurs. Je ne sais pas s'il y a un mot féminin de précurseur, c'est dommage parce que ce sont des femmes pionnières. Voilà, pionnières du cheveu là en l'occurrence afro en France. Et en fait, au détour d'une conférence à laquelle j'étais allé, j'avais eu l'occasion de lui parler. Et depuis, en fait, on échangeait régulièrement. Et l'idée du mouvement et même l'idée de la conférence ne pouvait pas se faire sans elle. Donc ça, c'est la conférence inaugurative qu'on a fait au mois d'avril. Et ensuite, on a fait un deuxième événement où on est allé un peu plus dans le vif du sujet parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, surtout de la part de parents. On a fait un atelier enfants à Bagnolet avec une association qui s'appelle Les Enfants de Bagnolet, où là, on a essayé de parler du cheveu harash, du cheveu crépus avec des enfants. Et il se trouvait que, étant donné qu'on était à Bagnolet, il y avait beaucoup d'enfants issus de l'immigration nord-africaine. Et là, on a essayé de déconstruire toute la question du cheveu, d'en parler en fait avec des enfants et de voir quelle était la perception eux-mêmes pour leurs cheveux et qu'est-ce qu'ils pensaient par exemple de moi. On a eu des scènes très très drôles d'ailleurs sur ça.
Par exemple, qu'est-ce qu'ils ont ?
Les petits enfants pensaient que j'avais une perruque par exemple. Ou alors la ressemblance avec Marcello le footballeur et tout ça. Donc c'était très très intéressant et en même temps ça permettait de faire une activité beaucoup plus pratique qu'une large conférence où on est beaucoup sur les idées, l'idéologie. Et troisième événement qu'on a fait, là c'était à Marseille sur l'invitation et entouré par Boucle d'Ébène au sein du festival Afropéa qui a eu lieu au mois de juin à la Friche Belle de Mai, où là on a fait une conférence avec Samia pour parler en fait de Rachid Boutiful avec les Marseillais et Marseillaises qui étaient intéressés par le mouvement.
Donc là, tu as déjà dit le mot perception, qui est un mot assez intéressant. En fait, la situation que vous décrivez, c'est qu'elle est, on va dire, doublement handicapante dans le sens où les cheveux naturels, les cheveux crépus, sont parfois dévalorisés autant en France que dans le Maghreb, dans les pays du Maghreb. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de quelle manière c'est pas la même perception et c'est pas peut-être la même discrimination, en commençant par celui que tu veux ?
En fait, en France, par exemple, il y a une perception négative au sein de la société en général plus par rapport au fait que c'est un peu ça c'est un peu inédit, c'est un peu bizarre pour certains, mais en même temps ça a des effets très négatifs et directs pour des personnes dans le monde du travail. On a eu plusieurs témoignages par exemple de femmes qui ont eu des pressions de la part de leur hiérarchie, comme quoi les cheveux frisés au crépus ou bouclés, c'était pas très professionnel. Ou alors aussi dans le cadre familial, là je parle toujours des personnes d'origine nord-africaine, où ils vont avoir des pressions pour qu'on leur coupe les cheveux, filles et garçons, ou alors enfin de sorte en fait à ce qui s'adapte en fait à la société, parce que quelque part, quand il y a des parents qui mettent cette pression familiale autour du cheveu, c'est pas seulement ah ben j'aime pas les cheveux de mon enfant en fait, c'est surtout une idée de c'est surtout l'objectif en fait. Ne te fais pas remarquer en fait.
Faut protéger son enfant
faut
et
pas
faire
t'en
en sorte
rajoute.
que. Ouais, voilà.
Voilà. Donc ça c'est pour le cas français et en Afrique du Nord en fait au Maghreb que ce soit au Maroc en Algérie ou en Tunisie plus précisément, bah il y a des choses qui se ressemblent mais en même temps il y a aussi ce truc-là de ça fait sale en fait. Les cheveux longs c'est très sale enfin je dis pas que moi que c'est sale mais pour certains ils ont la perception du cheveu crépus long qui est sale et du coup moi par exemple quand je me balade dans certaines villes du Maroc on me demande de couper les cheveux il y a ce côté-là aussi t'es un radin en fait tu veux pas te couper les cheveux c'est pour ça que t'as les cheveux longs il y a même des gens qui te proposent de te couper les cheveux gratuitement du coup mais il y a ce truc-là et la deuxième chose importante en fait c'est surtout une identification de beaucoup de Maghrébins et Maghrébines aux critères de beauté en fait qu'il y a ici, aux critères de beauté européens, accouplés aux critères de beauté orientaux, où là on a beaucoup plus de personnes arabes aux cheveux lisses. Donc du coup il y a cette identification. En fait il y a une espèce de comment dire ça?
Double standard.
Double standard en fait, et par rapport aux critères européens et par rapport aux critères orientaux, et du coup, il y a cette identification-là de beaucoup de personnes au Maghreb, et ça crée des frustrations identitaires assez compliquées.
Tu viens de parler des proches, du cercle très proche et de la famille. Ton acolyte Samia Sadani, elle a expliqué dans l'article assez long du Bondi Blog que, par exemple, elle n'avait jamais parlé de ce problème, entre guillemets, des cheveux avec sa sœur, alors que bon, c'est quand même quelqu'un de, a priori, proche. Comment on peut parler à des gens est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué pour vous d'essayer de. Par exemple, à vos parents, est-ce qu'il y a un problème de génération sur le sujet? Est-ce que c'est dur de s'adresser aux personnes proches?
Pour ce qui est des frères et sœurs, ça l'est pas vraiment. Enfin, on en a toujours plus ou moins parlé. Et la question du cheveu est chez nous assez banale. Au niveau des parents, je me répète par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment cette volonté d'avoir des enfants qui rentrent dans le cadre en fait social et sociétal. Et du coup, il y a
C'est une façon de protéger l'enfant et de vouloir qu'il réussisse au mieux.
C'est ça, c'est ça.
C'est
Et du coup, il peut y avoir des relations complexes par rapport à ça. Moi, personnellement, aujourd'hui, ça se passe très bien, mais je sais quand même que ça a pu être difficile par moment où surtout par rapport à la perception familiale en termes globaux, où on n'a pas trop envie de se faire remarquer, quoi. Mais sinon, effectivement, avec les frères et sœurs, tout dépend des familles, je pense.
Donc, avant qu'on passe à la première pause musicale, on a parlé donc des discriminations et de la pression qui pèse sur les gens qui portent le cheveu naturel. Mais alors, de l'autre côté, l'autre catégorie de ceux et celles qui font tout pour invisibiliser leurs cheveux naturels, dans différents textes que vous avez écrits, vous parlez de comportements autodestructeurs de longue durée. Concrètement, c'est quoi et comment on en arrive à des fins si extrêmes?
Ben en fait, on parle de comportement autodestructeur, surtout pour la question du défrisage, en fait. Le défrisage, c'est clairement le paroxysme à ce niveau-là de destruction du cheveu, puisqu'on le brûle quelque part. Et moi, personnellement, et même au sein de notre mouvement, on n'est pas là pour blâmer les personnes qui se défrisent les cheveux, par exemple. On est pertinemment conscient que c'est dû à la pression sociétale que des gens en arrivent là. Donc sur ce comportement destructeur, la question du défrisage c'est le plus radical. On le déplore, surtout que c'est une question de salubrité publique, mais voilà, c'est comme ça. Dedicated not to America's top model, but to the natural girls right next door. Are they saying Avatar? I see you. This Hollywood world so pretentious. Every other girl got a perm or extensions. But you don't even really wear lipstick. Still your beauty is a natural mystic. Indigenous, strong cheekbone from your lineage.
not what the mainstream image is. Natural hair is your heritage, but to see it without chemicals is rare as the pyramids. I was coming from the gym again, bumping Tupac, never call you bitch again. She crossed the street, melanin, glistening, felt the energy, something about you so interesting. The prototype Eve from Genesis, ghetto empress, Nefertiti resemblance, so sweet, so street and genuine. Real black girl, I salute your existence. I can see us just kicking it, building an intimate friendship, more than just hitting it. Down to earth like greens and cornbread, she don't need no weaves or contacts. Not judging other girls that got that, I'm just saying you the truth, never doubt that, cause you got that.
Beauty's within, not just on the surface. The skin that you're in, you're already perfect. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. Beautiful girls come in all types of flavors. When you love yourself, it's always gonna be haters. They got nothing.
Going out to my African queen. Dark skin, light skin, everything between. Looking so good when you step up on the scene. Smelling so sweet, so fresh and so clean. Even though we don't see you on the flat screen. Ain't no doubt about what you got in them jeans. I don't mean denim, it's your family tree. Yeah, it's all about red, black, and that green. For Chianisa and for Lena and for all the pretty little girls. Going out to my mama, my favorite woman, and for all the women in the world. No, they don't love you on the radio. And they try to play you in the video. But you so beautiful and natural. Oh, oh, oh.
Beauty's within, not just on the surface. The skin that you're in, you're already perfect. They got nothing on you.
C'était Beauty Within de Dead Press sur Radio Campus Paris, une vraie musique d'apéro.
Tu prendrais pas une bière ?
On vient de passer un mois à picoler, on a fait que ça.
Et on va continuer.
Et on va continuer.
L'apéro jusqu'à 20h sur le 93.9. On est toujours en studio avec Yacine Alami, si je mets tout en même temps c'est compliqué, Yacine Alami de Hrach is Beautiful, une initiative qui cherche à revaloriser le cheveu naturel dans la communauté nord-africaine. Yacine, c'est toi qui m'as suggéré cette chanson pour illustrer notre discussion, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu l'aimes?
Déjà, Dead Press, c'est un groupe que j'apprécie depuis tout petit. Donc déjà, c'est important. Et ce son, en l'occurrence, dans la chanson, il met en valeur la beauté naturelle du cheveu crépu. Donc forcément, c'était logique.
Ça parfaitement.
Exactement.
Avant de continuer sur ton initiative, Yacine, on va parler avec Elodie. Lou, tu t'es intéressée aux coiffeurs pour hommes. Et depuis des mois, les hommes qui se colorent les cheveux, ça t'interpelle.
Oui, souvenons-nous de cet invité, Willy Pasini, sexologue, absolument convaincu que la femme devait conserver ses rôles de pute et de mère, tandis que le patriarche, fidèle à sa couleur de cheveux, autant qu'à sa position de pouvoir, ne devait surtout pas se les colorer.
Mais l'homme est plutôt jaloux de cette liberté de la femme. La femme est habituée depuis des générations aux trahisons du mari. Elle s'est presque rodée à ça. Et les hommes, ils sont tout à fait jaloux. Pas un jugement de valeur. Je n'aime pas ces hommes qui veulent être toujours enfants ou adolescents et qui ont 50 ans, ils se font teindre les cheveux, etc.
Oui, son opinion m'a bouleversée. Pourquoi reprocher à ces pauvres bons hommes de se colorer les cheveux ? Foutons-leur la paix. Laborieusement, un peu plus chaque jour, les injonctions esthétiques faites aux femmes s'affaiblissent et tout à coup, on se mettrait à juger les hommes à leur tour.
Ouais, laisser les femmes libres de se coiffer comme elles veulent et d'être sexy quand et si elles veulent, c'est aussi censé libérer les hommes.
Oui, car quand les hommes s'intéressent à leurs cheveux, on sent enfin un accès à la très discrète faille de la grosse confiance en soi masculine, bien affichée en vitrine. Enfin, on peut aborder la question de l'image que l'homme souhaite offrir au monde. Enfin, s'ouvre, sorti du fond du cœur de l'adolescent complexé, resté planqué toutes ces années, la longue litanie des complexes que peuvent représenter un choix esthétique concernant son image. Ai-je assez de barbe? Pourquoi ça pousse pas ici? Je les mets à gauche, à droite. Suis-je assez viril? Je fais trop vieux? Je peux m'arrêter sur la question de l'âge. Alain Souchon, Paul McCartney, tous les deux, 70 ans passés, ont en fait les cheveux teints.
On ne peut pas dire que ça les rende plus séduisants.
Ni qu'ils aient l'air plus jeunes. Qu'il s'agisse de la coiffure ou de la couleur, les préoccupations sont fortes de sens. Selon les coiffeurs, le choix de la coiffure pourrait refléter la personnalité, l'envie de séduire, voire même le sexe à pile. Pourtant, les personnalités dont on parle le plus au sujet des cheveux, ce sont les joueurs de foot.
On se souvient de ce match en 2012 où Cristiano Ronaldo s'était recoiffé pendant la mi-temps.
Cela avait été très commenté en effet. Mais au-delà de l'allure ou des éventuelles conséquences sur les performances sportives dues à la coiffure, les commentaires se sont concentrés sur le changement. Plus que la peur de l'âge, l'entrée en guerre contre les cheveux blancs montre la peur de se voir changer, se découvrir quelqu'un d'autre. Car si l'homme échappe à certaines injonctions de la beauté, il se doit en revanche d'être toujours le même. On supporte bien mal la duplicité chez l'homme. Trump joue énormément sur cette carte de l'homme qui n'a qu'un seul opinion et qu'une seule couleur de cheveux, carotte, clair.
Tandis qu'une femme, elle peut bien être volatile et changer de tête comme elle change d'humeur, puisqu'elle a ses règles. Hein, donc...
Voilà, quand on a nos règles, c'est bien connu, on change nos cheveux, on se teint en rose et les stéréotypes ont la vie dure. Si tu perds tes cheveux, n'aie pas peur, peut-être tu les retrouveras. Si tu veux les avoir bleus, n'attends pas que ce soit la mode, fonce. Et si tu as trop peur de dévoiler ta nature féminine ou tout simplement ton naturel, fonce, tu es sur la bonne voie.
Chez Max, coiffure pour homme, ou un jour j'entrerai comme... Par hasard, me faire raser la couenne et rafraîchir les douilles.
Merci Elodie qui n'arrête pas de parler hors micro, c'est bien. Avant de continuer notre discussion avec Yacine Alami, on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce du film Marianne Noire, réalisé par Mame Fatou Niang Kate Nielsen l'année dernière.
En fait, ce qui est important, c'est la transmission qui est cruciale. C'est la transmission des parents aux enfants de l'amour de leurs cheveux. Parce que quand on entend « Ah, ton cheveu est difficile, ton cheveu est incoiffable, il est moche, il est laid, il est sec, etc. » L'enfant, en fait, intériorise ces valeurs qui le définissent, c'est-à-dire c'est toutes ces valeurs négatives, alors qu'en fait, ce sont des spécificités qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître et surtout qu'il faut apprendre à aimer.
La transmission, Yacine, c'est ce que vous cherchez à faire avec l'initiative ?
Ça fait partie de l'objectif, puisque ça va être c'est un combat qui commence pour entre guillemets, notre communauté, puisque par rapport aux communautés afrodescendantes, par exemple, on est vraiment sur un sujet qui n'est pas nouveau, mais en termes de combat politique, je pense qu'on est à l'initiation de tout ça. Et effectivement, la transmission pour les enfants, ça va être super important.
Tu en as parlé. Alors, dans le monde anglo-saxon, en tout cas aux États-Unis, ça fait longtemps que ce thème est devenu un thème. Est-ce qu'il y a d'autres associations, initiatives qui vous ont inspiré? Et je pense peut-être plus particulièrement en Afrique du Nord, est-ce qu'il y a des mouvements comme le vôtre?
Alors, il y a une personne égyptienne qui avait créé un mouvement qui s'appelait Mlolo, où elle parlait justement des cheveux bouclés, ondulés, crépus chez les femmes arabes aux États-Unis. Qui effectivement a joué dans notre motivation, mais sinon ça reste très très rare. C'est-à-dire que le domaine du cheveu est encore un peu tabou entre guillemets en Afrique du Nord. Là où il y a un début de changement par rapport à ça, c'est chez certains mouvements féministes en Afrique du Nord, où là il y a un volet cheveux.
Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, je pense au rôle des personnalités, des célébrités, un rôle de modèle? Bon, il y a Beyoncé, mais bon, Beyoncé, c'est toujours face B, enfin, je veux dire, réveil de la médaille. Est-ce qu'il y a des personnalités en Afrique du Nord qui commencent à prendre cet étendard et à porter ce combat?
Exactement. Ben justement, dans notre page Harash is Beautiful, que ce soit sur Instagram ou Facebook, on a fait toute une série sur les rôles modèles nord-africains qui portaient leurs cheveux naturels, que ce soit des personnes de la diaspora, entre guillemets, ou au niveau local. En France, je pense à Yacine Rahal, qui est un mannequin très très connu aujourd'hui qui porte ses cheveux naturels, qui a une très belle coupe de cheveux d'ailleurs, et qui est très reconnu à l'international. Hein. Il a fait la Fashion Week et tout ça, quoi. Je ne me connais pas trop là-dedans, donc je ne vais pas m'étaler.
Il était à l'international, en tout cas.
Voilà, exactement. Je pense à Iman Hammam, qui elle est marocaine égyptienne. Il me semble qu'elle est hollandaise, si je me trompe pas, qui pareil fait émerger de plus en plus le cheveu naturel chez les Nord-Africains. Donc effectivement, il y a de plus en plus de rôle modèle.
Il y a déjà des gens qui se disent ouvertement, enfin qui militent ouvertement pour ça. Vous êtes deux à avoir lancé ce mouvement avec ton acolyte. Ton acolyte, en tout cas, c'est une femme. Est-ce qu'en discutant au début, vous êtes rendu compte que, alors il y avait des similitudes, mais qu'il y avait par exemple les hommes qui avaient une influence aussi sur les discriminations du cheveu crépus chez les femmes et inversement. Est-ce que c'est la même discrimination chez les deux sexes?
Non, c'est clairement pas la même discrimination, puisque déjà, il y a beaucoup moins d'hommes maghrébins qui ont les cheveux longs. Donc forcément, mathématiquement, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus faible, cette discrimination-là. Beaucoup plus de femmes ont les cheveux longs. Et dans tous les cas, dans une société comme la société française, ou même les sociétés en Afrique du Nord, il y a toujours cette pression qui est beaucoup plus forte sur les femmes que sur les hommes. Donc clairement, les femmes subissent beaucoup plus cette discrimination par rapport aux cheveux, et ça se fait ressentir d'ailleurs dans les témoignages qu'on reçoit, puisque les trois quarts des témoignages sur la question du cheveu proviennent de femmes.
Toi Yacine, t'es prof d'histoire, est-ce que recontextualiser la problématique du cheveu naturel chez les Nord-Africains et Nord-Africaines par rapport à l'histoire de la colonisation et des relations entre les différents pays, est-ce que pour toi ça doit forcément faire partie de ce combat et comment on peut le mettre en place?
Ça doit clairement faire partie de ce combat, surtout qu'il y a un vide total par rapport à ça. C'est-à-dire que sur la question historique par rapport aux cheveux, un exemple tout simple, sur les réseaux sociaux, des gens nous ont demandé, est-ce que vous savez si avant il y avait ce même tabou sur le cheveu, cette même frustration entre guillemets par rapport au fait qu'on n'a pas que certains n'ont pas les cheveux lisses et tout ça. Il y a un vide. Donc nous, on a quelques débuts de réponse, puisque par exemple par rapport aux femmes, on sait que beaucoup en Afrique du Nord se tressaient les cheveux, gardaient leurs cheveux naturels en tout cas. Les hommes, la majorité, coupaient leurs cheveux, et en même temps, dans les sociétés islamiques, beaucoup d'hommes laissaient les cheveux longs. Donc il va y avoir un travail de recherche au niveau de l'histoire à faire par rapport à ça, et je pense d'ailleurs que c'est un truc qu'on compte faire, parce que c'est fondamental.
Avant de refaire une petite pause musicale, est-ce que pour certaines personnes, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes d'origine nord-africaine qui sont sur le réseau qui suivent, est-ce que pour d'autres personnes qui sont peut-être blanches ou qui sont d'autres communautés, ça a été une découverte, vous avez eu des retours, une découverte, un truc qu'ils a jamais, ils auraient supputé ou ils ne se seraient jamais imaginé de telle discrimination?
Ben déjà, c'est une découverte parce qu'effectivement c'est nouveau, hormis le fait qu'il y avait beaucoup de mouvements afro-descendants chez les Nord-Africains, il y avait presque rien, mais là où il y a effectivement des commentaires de la part de personnes européennes, caucasiennes ou blanches, c'est pour certains les couples métis par exemple, qui là vont qui commencent à faire cette recherche par rapport aux cheveux et qui sont tombés sur nous, et tant mieux.
We had music back in just who she is. The toe pilot of my evolution. Jack might seek my companionship. Yo. Had to take a few minutes from my schedule to pen this. About a spirit whose potential sits at limitless. So necessary, unlike an appendix, she be an appendage of the utmost significance. Many lost love, so they cool with dissonant. Look up to the sky and they wonder where the ribbon went. We pulled it down from the clouds and wrapped up in it. Feed each other jewels so luster never diminishes. Sharing instances of the rocky finishes from each other's past. Learn lessons, all the benefits. Hanging portraits of bliss over the image. Just burden to the psyche from highly traumatic incidents. She administers ministering. When I get been all out of shape, she's a potter giving me form again. Yes, she a rider and I'm a militant dissident. And not to mention, I love her hair. Cause it's real. I love her hair. True original, don't change it. Keep it right there.
it right there. Keep it right there. Keep it right there. Now listen, she got her hair like lamb's wool. Same as Yeshua, keep me close to God too. Yes, same as Yeshua, I'm one of the wise men. Following the East Star, witnessing the rebirth. God is born, I applaud. She know that life is hard, so effort must be harder. The challenges are large, then fortitude is larger. Praises to Elijah for schooling Farrakhan. Truly know myself, cause I know the sister on my arm. My Lord, here comes another storm, but my Lord, who knew we were this strong? No more than we can bear is what we're burdened with. Strength gained from a devil's trial is what we're hurting with. Pain is what you're flirting with. If you're merging with a black hole, significant other, alpha service self. Yes, takes a certain mismatch. I'm on the grand prize, and this one deserves the wealth. Tell it.
I love her hair, cause it's real. Keep it right there. Keep it right there. Keep it right there. The mind plays tricks on boys from the ghetto. First sign of trouble, mind telling me to let go. Wisdom taught me better. Make the choice of Solomon. Looked into myself, saw past pain bottled in. Never would have dealt with it if I wasn't belted with it. Now I'm better with it, on another level with it. Heading off to heaven with it. Ain't stressing with it. Met her on my birthday. Now we're getting wedding fitted. From the same school of thought and the math work. She plus me equals one in our classwork. Yeah, the ass perfect. And we passed first, second, third, and home plate. But spirit is the home base. She feed my body and my soul and my intellect. Chewing on the finest gourmet savory concepts. Sister is a keeper. Nappy rooted past the scalp cause her black is deeper.
I love her hair, cause it's real. I love her hair, yeah. True original, don't change it. Keep it right there. Keep it right there. Keep it right there. Keep it right there. It's kinda cool that she listen to more than.
C'était un morceau qui vous a été proposé par Adèle, qui réalise en ce moment même l'émission, et vous écoutiez Her Hair de David Cha.
Une autre bière.
L'apéro, c'est le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Ok, à quelle heure?
À 19h.
Et ben c'est parti, l'apéro.
C'est maintenant.
Bonjour ma propre petite sœur.
En studio, toujours en studio avec Yacine Alami de l'initiative Hash is Beautiful, le mouvement qui veut revaloriser le cheveu naturel dans la communauté nord-africaine. On a beaucoup parlé du contenu, de ce qu'il en était vraiment, du vif du sujet. Je voulais te poser une question sur le format de votre initiative. C'est en fait une plateforme, donc Facebook et Instagram, pour l'instant si j'ai bien compris. Et c'est une plateforme qui reçoit beaucoup de témoignages. Pourquoi vous avez voulu permettre ce format-là et le mettre en avant?
Parce que d'une, c'est clairement sur les réseaux sociaux en fait que le sujet émerge le plus depuis quelques mois à notre initiative d'ailleurs, enfin avant même d'avoir créé le mouvement, que ça soit Samia Sardani ou moi-même, on en parlait déjà puisque moi j'avais fait un premier témoignage sur les réseaux sociaux qui avait été pas mal partagé d'ailleurs, et d'autre part en fait c'est pour essayer de toucher le plus de monde possible. Les réseaux sociaux, c'est clairement le meilleur canal à ce niveau-là, même si on se bloque aucunement sur d'autres formats à l'avenir. Là, on vient de commencer, hein, on est encore tout neuf, mais des articles sont en préparation, par exemple. Moi, ça m'intéresserait énormément de créer du contenu en termes de publication sur la question du cheveu naturel chez les personnes d'origine nord-africaine.
En termes de recherche aussi par rapport à l'histoire, comme tu nous as dit avant la pause.
C'est ça. Même en termes de recherche. Donc voilà, les réseaux sociaux. Pour commencer dans un mouvement comme ça, c'est ce qui a été le plus naturel et logique pour nous. Mais à terme, en termes de contenu, que ça soit vidéo, livre ou article, ça fait partie de nos objectifs.
Un autre grand volet de l'initiative, c'est de questionner les représentations donc des personnes nord-africaines ou d'origine maghrébine en France et aussi au Maghreb. Vous parlez par exemple des médias, donc à quel point voilà, le cheveu naturel n'est pas présent dans les médias français. Vous avez fait quel constat pour l'instant sur ce point-là?
On va dire que c'est un peu quand même balbutiant par rapport à ça, mais c'est surtout le fait que il y a un manque de connaissances et un peu une forme d'ignorance à ce sujet-là, puisque il y a quand même la question du cheveu naturel qui émerge et qui est même à un stade assez fort par rapport aux communautés africaines subsahariennes afrodescendantes, alors que pour les communautés nord-africaines, il y a encore un vide sur ce sujet-là. Mais en même temps, je pense que c'est aussi aux personnes d'origine nord-africaine de faire le premier pas, entre guillemets, puisque beaucoup de gens, en fait, s'en rendent pas compte, même dans les médias, en termes de culture, ils se rendent pas compte forcément de ça. C'est lié, en fait, aussi aux perceptions, puisque beaucoup, en fait, de personnes d'origine nord-africaine, par exemple, qui portent leurs cheveux naturels, certains vont penser qu'ils sont, entre guillemets, noirs ou d'origine antillaise, et que, en fait, on va pas créer une autre catégorie juste parce que c'est différent, quoi.
Et aussi, il y a un truc que je crois que Samia Sadani a disait dans un autre article, enfin, une autre interview, c'est que même en Afrique du Nord, c'est une question que je me suis posée aussi. Est-ce que, par exemple, il y aurait un présentateur de JT avec un afro, une coupe afro, ou est-ce que ça se fait déjà, ça?
C'est encore un peu difficile. Je pense pas que ça soit dans les prochaines années, mais il y a quand même un début d'évolution pour avoir analysé quand même et vu plusieurs fois avec mes parents la télé marocaine, par exemple. Je vois quand même que depuis quelques mois, quelques petites années, il y a un début de changement par rapport à ça. Je me suis rendu compte, par exemple, récemment qu'il y a une pub de téléphone où on voit une personne qui porte, entre guillemets, une afro. Donc il y a quand même un début de changement, mais on est encore loin d'avoir, par exemple, une personne au JT qui porterait les cheveux naturels.
Et en France, n'en parlons pas, parce qu'il faudra encore attendre des siècles. une dernière question. Quels événements vous avez là à venir avec Harash is Beautiful?
Alors, un de nos événements les plus importants, que j'évoque en exclusivité ici, ça va être le 11 octobre. Donc on créera l'événement sur les réseaux sociaux, on partagera ça avec Take It Green, donc qui est une page Instagram et Facebook qui parle du rapport au naturel en général, à l'écologie, au bio, que ça soit en termes de nourriture ou de soins de la peau et de soins de cheveux justement. Donc la personne qui dirige ce mouvement, c'est Asma, qu'on invite donc pour cet événement du 11 octobre, pour justement amener un côté pratique sur la question du soin du cheveu pour les personnes qui seront là. Et la deuxième personne qui est invitée, c'est une personne qui son nom sur Instagram, c'est Nina Naturel, qui aussi d'origine nord-africaine, qui parle aussi des soins naturels par rapport aux cheveux et à la peau. Et donc voilà, on aura deux personnes éminemment spécialistes de la question des soins au naturel autour de cet événement qui aura donc lieu le jeudi 11 octobre à Paris.
Super, on reste à l'écoute. N'hésitez pas à aller consulter leur page Facebook, leur Instagram, et aussi renseignez-vous sur cette question. Il y a de plus en plus d'initiatives et de documents, donc l'initiative Harash is Beautiful de Yassine Alami et Samia Sadani, qui publie de nombreux témoignages, mais aussi par exemple l'asso de Sciences Po Paris qui s'appelle Science Curls, le livre Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation de Juliette Smeralda Hamon. Bref, il y a de quoi faire. Yassine, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je profite que tu sois là pour te dire au revoir. Marqué n'importe quoi. On se quitte avec la voix de Chimamanda Ngozi Adichie.
Chimamanda Ngozi Adichie, qui a écrit Americana, qui explique dans une des interviews qu'elle pense que si Michelle Obama portait son cheveu crépu donc dans sa texture naturelle, elle pense que Barack Obama n'aurait jamais été élu.
If Michelle Obama had natural hair, Barack Obama would not have won. He would not have won. It's true. I mean, it's sad and it seems shallow, but it is true. Because particularly in America, there are all of these assumptions attached to natural black hair. If Michelle Obama had dreadlocks or an afro or cornrows, she might be thought to be radical, Black Panther, difficult.
She's telepathic, call it black girl magic.
she taught us how to fight.
Ferme la page cheveux, mais on garde celle de la politique grande ouverte, puisque c'est de ça dont il va s'agir pour la fin de notre apéro. Margot de Wilde, j'ai déjà oublié, et Tara Singh, c'est bien ça, nous ont rejoint en studio, enfin m'ont rejoint en studio. Bonsoir à toutes les deux. Vous êtes toutes les deux dans l'équipe d'organisation du festival Les Tropicantes, un festival étudiant, culturel et critique qui aura lieu le 21 et le 22 septembre, c'est-à-dire ce week-end, au Jardin d'agronomie tropicale à Nogent-sur-Marne. Alors Margot, tu es en charge de la programmation scientifique et Tara, tu es en charge du pôle environnement.
Exactement.
Donc deux pôles très importants dans ce festival qui est écologique et qui parle de relations internationales, entre autres. On en parlera plus en détail. Alors c'est la deuxième édition du festival Les Tropicantes. Est-ce que vous étiez déjà en charge l'année dernière ?
Non, en tant que bénévole, on a participé.
Et alors, est-ce que vous avez suivi un petit peu du coup l'organisation ? Qu'est-ce que vous avez essayé d'améliorer depuis l'année dernière ? Ou alors, en quoi ça a changé ? Ou alors, est-ce que c'était tellement bien que c'est resté pareil ?
Non. Ce qui nous a bien plu, la première édition, c'est que c'est un festival étudiant assez participatif où tout le monde a un peu sa patte à ajouter, toutes les idées sont bonnes à prendre. On a beaucoup discuté, il y a eu beaucoup de réunions depuis novembre pour faire un festival qui nous ressemble, dans lequel on peut partager... des thématiques qui nous intéressent, environnementales, culturelles, musicales. Il y avait vraiment cette envie de faire une espèce de pont entre les arts et le savoir et que ce soit accessible au plus grand nombre.
Et par rapport à l'année dernière, ce qu'on a rajouté, c'est qu'on parle de la paix cette année. L'année dernière, il n'y avait pas de thématique définie. C'était les 60 ans de l'Institut de développement économique et social. C'est là où on étudie. Donc,
c'est uniquement les étudiants de votre master qui sont dans l'organisation. Mais est-ce qu'il y a eu des gens, par exemple, qui ont eu envie, en étant venus au festival l'année dernière, de rejoindre l'organisation, par exemple ?
C'est un petit festival, c'est la deuxième édition. Donc, c'est surtout des amis d'amis. On fait avec le réseau qu'on a. Donc, oui, c'est des gens un peu de partout, mais surtout...
C'est ouvert à tous. C'est juste que vous êtes une grande majorité du master. Donc, vous pouvez nous redire quel master c'est et du coup, de quel établissement ?
C'est Master de Développement Économique et Social et c'est un institut qui dépend de Paris 1.
D'accord. Et donc Margot, tu le disais à l'instant, cette année, le grand slogan, c'est les dessous de la paix. Alors qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ? Parce que moi, quand j'entends les dessous de la paix, c'est pas forcément très positif. C'est qu'on laisse entendre que c'est pas forcément la paix. Alors qu'est-ce que vous voulez exprimer par ça ?
En fait, notre idée, c'est que la paix, finalement, c'est pas quelque chose de consensuel quand on demande à chacun qu'est-ce que toi tu penses. Qu'est-ce que tu penses et la paix ? On n'a pas tous forcément la même réponse. Et puis, on voulait se questionner aussi sur est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un monde en paix ? Et comment est-ce qu'on aimerait promouvoir, en tout cas, un monde en paix ? Parce que je pense que c'est un idéal, de toute façon, pour tous. Mais c'est un idéal qui sera différent en fonction de chacun. Donc, c'est ce qu'on voulait questionner aussi pendant le festival. Donc, en abordant différents thèmes, toujours relatifs à la paix. Pour que chacun puisse se questionner sur ces questions-là.
Et alors, comme c'est un thème très large, vous avez choisi comment les sujets ? Parce qu'il y a quand même pas mal de sujets précis. De thèmes plus précis. Mais comment vous avez choisi les sujets ? Parce qu'alors, en relations internationales, en études de développement, il y a quand même une multitude de sujets. Ils sont tous très intéressants, très pertinents. Comment vous avez réussi à faire le tri dans tout ça ?
En fonction des personnes qu'on pouvait rencontrer et qui pouvaient venir au festival, en fonction de chacun de nos envies, en fait, on a tous pu proposer des profs qu'on avait eus ou des personnes qu'on connaissait qui nous semblaient pertinentes. Et avec ça, on a décidé de thématiques et puis on a monté les différents différents ateliers. Différentes...
C'est très large, en fait. On est de la paix selon des questions de genre, c'est-à-dire quel est le rôle de la femme en temps de guerre? Est-ce que c'est plutôt une victime? Est-ce qu'elle participe à la guerre aussi, d'une certaine manière? Il y a des ateliers sur la paix intérieure. Donc, on va avoir un atelier yoga. Il y a des ateliers sur la paix sociale. Donc, comment est-ce que nous aussi, on peut participer à la paix au quotidien? L'idée, c'est vraiment de faire réfléchir les gens sur des questions qui peuvent être de société, à laquelle on ne prend pas forcément le temps de réfléchir, parce que la paix, c'est un grand sujet. On se dit tout ça, on aimerait bien être en paix, mais comment est-ce que ça nous touche? Et puis, on avait vraiment cette volonté de faire participer les acteurs de la scène locale, et de faire rencontrer du coup au public tous ces gens qui ont des associations, qui mettent en place des initiatives au quotidien, pour que peut-être que les gens les rejoignent aussi après, quoi.
Là, c'est un peu à cheval sur Nogent et Vincennes, en gros, si j'ai bien compris. Du coup, il y a quoi comme asso, par exemple? Parce que vous êtes à Paris, donc c'est pas tout près forcément non plus. Donc, il y a quoi comme asso que vous avez voulu valoriser dans ce festival? Vous avez des idées, des exemples, je veux dire.
On aura un village associatif. Mmh. On a plusieurs associations de Paris 1, parce qu'on a aussi voulu mettre en valeur les associations étudiantes. Il y a la branche Amnesty International.
Il y a pas mal d'assos sur notre campus. En fait, il y a des ONG qui travaillent autour de nous. Donc, elles vont venir. Il va y avoir une conférence sur le cacao et comment ça peut être un facteur de paix ou de conflit. Il y a des assos. Après, le monde associatif local, c'est pas que du coup Vincennes, c'est aussi Paris. Donc, on travaille avec la Chorba, qui est une association qui fait des récups de fin de marché et qui nourrit à peu près 1000 personnes tous les soirs. Donc là, ils seront là pour parler de leur initiative et ils vont faire un couscous végétarien, non végétarien. C'est un peu des participations.
Du coup, ce festival, il a lieu ce week-end, donc samedi 21 et dimanche 22 septembre.
Seulement vendredi, en fait.
Ouais. C'est, d'accord, ça a dû changer, ou alors j'ai mal regardé la page, d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'était que, donc là, vous avez un temps fort vendredi. Est-ce que pendant toute l'année, vous faites aussi des choses en amont? Enfin, j'imagine que ça prend du temps d'organiser le festival en soi, mais est-ce que l'association est aussi active avec les autres étudiants et avec, par exemple, les profs? Est-ce que vous essayez d'influencer, moi, je pense, le programme des cours? Par exemple, moi, j'étais à la fac en Allemagne et on faisait toujours le même cours, et à la fin, on a dit, en fait, on aimerait que les auteurs qui sont des femmes ou les auteurs des minorités, qu'on étudie à la fin quand il nous reste une ou deux heures, en fait qu'on les fasse en premier, et ça nous avait tous beaucoup plu. Est-ce que vous avez aussi ce genre d'action tout au long de l'année sur le programme concret de vos études?
En fait, ce qui est bien, nous, c'est qu'on étudie dans une petite structure. C'est le campus, on est juste les élèves de master en développement, donc on est assez proche des profs, et c'est vrai que je pense qu'on a quand même notre mot à dire pour pouvoir les conseiller pour améliorer leurs cours. Et en fait, l'association, c'est l'association AED, c'est l'association des étudiants en développement, et il y a différents projets qui sont menés au cours de l'année, mais je vais laisser Tara en parler puisqu'elle faisait partie d'un des projets.
Mais c'est vrai que l'influence des élèves sur les cours, c'est une super idée. Ça pourrait être bien à mettre en place à partir de cette année. On discute, mais c'est vrai que ouais, il n'y a pas ce projet-là qui a été mis en place. Sinon, l'association, elle organise, elle aide des étudiants à monter des projets à l'international, de solidarité internationale. Donc du coup, ils seront là, ils pourront parler de leurs projets. Il y a eu un projet qui est parti au Maroc et un projet qui est parti en Inde, dont j'ai fait partie. Et voilà.
Vous parlez aussi beaucoup dans la présentation du festival de décloisonner le monde du développement, parce que tu viens de nous dire, Margot, par exemple, que vous étiez tout seul dans votre bâtiment avec les étudiants du M1. C'est quoi le constat que vous faites aujourd'hui sur le monde du développement? Si vous parlez de décloisonner, c'est que vous pensez qu'il est trop fermé?
Je pense qu'en fait, on sait assez peu ce que c'est que le développement. Moi, c'est un constat que je fais. Quand je dis que je fais des études du développement, il y a assez peu de personnes qui vont me dire « Ah, ok, c'est chouette, je vois de quoi tu parles ». Et du coup, c'est aussi ça qu'on a notre ambition avec le festival, c'est de faire en sorte que les gens soient plus curieux et qu'ils soient plus ouverts au monde qui les entoure, parce que finalement, le développement, c'est tout. Ça concerne l'éducation, ça concerne l'agriculture, ça concerne la politique, ça concerne le citoyen et tout ce qu'il est capable de faire au quotidien, ses libertés, etc. Et du coup, c'est juste d'être conscient de tout ça et puis d'essayer de...
Sensibiliser aux grandes problématiques du développement, ouais. Et aussi de connaître le monde un petit peu, enfin de le faire connaître. Tu as parlé tout à l'heure, Tara, du la culture. Il y a un titre en fait de conférence et d'atelier qui sera Culture du cacao, culture de la paix. Alors il y a un atelier, alors je suis assez curieuse de savoir ce que ça va être l'atelier. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots?
En fait, le terme atelier, on l'a pas mal utilisé, ça, c'est surtout des conférences en fait, mais on avait un peu envie de sortir du modèle conventionnel d'une conférence où quelqu'un parle et les autres les écoutent. Là, c'est vraiment l'idée que ce soit des tables rondes, que chacun puisse discuter sur les sujets. Donc voilà, il y a des spécialistes qui viennent en parler et on espère que les gens auront des idées sur le cacao qu'ils mangent, le chocolat qu'ils mangent.
Il y a aussi dans la présentation de votre événement, donc les Tropicantes, une phrase qui m'a parlé. Vous dites « Les violences sociales, économiques et politiques s'accentuent et nous concernent toutes et tous ». Alors moi, ça m'a un peu fait penser au fait que en fait, le développement, parce que j'ai aussi fait des études sur le développement c'est on va en Afrique, on va en Asie faire des projets, mais il y a aussi des choses chez nous qu'on pourrait faire. Est-ce que vous essayez d'axer aussi votre festival sur l'action locale et l'action en France?
Bah complètement. C'était vraiment l'idée que oui, exactement ce que tu dis, le développement, on a toujours l'impression que c'est ailleurs, mais en fait, il y a plein de problématiques sociales qui nous entourent. On a vraiment insisté sur du coup faire venir plein d'associations qui travaillent et qui œuvrent en France sur les problématiques liées à l'immigration notamment. Et après, on travaille aussi pas mal sur les questions de développement durable aussi en France. Du coup, on essaye que notre festival soit écologique. On a bossé avec beaucoup de récupération, notamment toute la scène en fait, qui va accueillir les concerts qui auront lieu à partir de 18h a été complètement fabriquée à partir de palettes récupérées. Donc il y a vraiment cette idée qu'on a envie en fait, à travers notre festival qui dure juste une journée, de montrer un peu le monde dans lequel on a envie de vivre plus tard et de montrer qu'il est possible, quoi.
Là, tu parles de récupération, ça me fait penser alors à ce que vous avez aussi marqué dans le programme sur la mise en scène qui joue avec l'espace naturel, le Land Art. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est? Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est que le
Land Art. En fait, c'est travailler avec la nature et faire des œuvres, des œuvres artistiques avec la nature, jouer sur les implantations des arbres qui existent déjà. Donc, il y a des artistes qui travaillent en art plastique qui viennent et qui font un truc avec des fleurs. Enfin, ça va être assez chouette.
Et pendant qu'on parle de nature, il faut peut-être qu'on dise un mot sur le lieu, parce que moi je ne le connais pas par exemple, je pense qu'on est beaucoup à ne pas le connaître. Alors c'est le Jardin d'Agronomie Tropicale de Paris, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
En fait c'est le jardin dans lequel s'est tenue l'exposition coloniale de 1902, donc c'est un jardin qui est plein d'histoire, et c'est un lieu qui est assez surprenant, parce qu'on dirait un espèce de petit îlot au milieu du bois de Vincennes, et... Pour nous, au quotidien, c'est super, mais c'est vrai que c'est chouette aussi de pouvoir réfléchir sur le lieu. Et on a des visites du lieu avec des photos d'époque pour montrer un peu tout ce qu'il a accueilli. Et
C'est vraiment le poumon de Paris, quoi. Enfin, nous, on a la chance d'y aller au quotidien, mais c'est vrai que ça m'est arrivé de discuter avec des gens, de nos gens qui ne connaissent pas en fait, cet endroit. C'est magnifique. C'est vraiment beau.
Et du coup, les visites du jardin, c'est vous, enfin c'est des étudiants ou c'est des gens du jardin qui vont les faire, les organiser?
C'est des gens d'une des structures qui est sur le campus, un passionné du jardin qui connaît.
Il saura tout dire sur l'histoire. Il n'y a pas que des conférences et des ateliers de débat sur la paix. Il y a aussi de la musique. Il y a beaucoup de sets de DJ prévus. Vous pouvez nous en dire un mot un petit peu sur les noms qu'il y aura, quel style de musique c'est pour dire aux gens?
Alors il y a deux scènes. Il y a une scène électro, c'est la petite scène, et puis il y a une grande scène avec plutôt de la musique du monde, où là pour le coup il y aura une plus grande diversité de styles de musique, allant de la cumbia
au jazz.
Donc, on aura pour tous les goûts, a priori. Il y a une citation sur votre site que j'ai beaucoup aimée. Enfin, je pense que tout le monde l'aime bien, mais c'est une citation de Gilles Deleuze. « Avoir une idée, c'est une espèce de fête ». Pourquoi vous avez décidé de mettre ça en avant? Je ne sais pas si c'est vous qui avez décidé ou l'équipe de l'année dernière. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour
c'est
vous?
C'est l'idée qu'on peut mélanger réfléchir, se questionner, avoir envie de changer le monde et en même temps faire la fête, quoi. C'est pas incompatible et c'est vraiment ce qu'on a envie de faire.
C'est aussi décomplexer peut-être la science, on va dire, enfin la recherche scientifique et universitaire. On n'a pas parlé des profs encore. Il y a beaucoup de profs. Enfin, du coup, il y a des profs intervenants, j'imagine. Qu'est-ce que vous essayez de motiver les profs à venir? Est-ce qu'ils sont aussi une part de l'organisation? Est-ce qu'ils ont...
Les profs étaient hyper impliqués l'année dernière dans l'organisation. Cette année, c'est plus les étudiants qui ont fait tout ça. Mais ils nous soutiennent beaucoup et puis ils sont de très bons conseils tout le temps.
Et si je peux compléter, moi j'ai beaucoup aimé cette liberté qu'ils ont essayé de nous transmettre. Ils nous ont dit, c'est votre festival, vraiment, soyez libres de proposer tout ce qui vous vient en tête. Enfin, pour une fois que vous avez accès à ce que vous avez envie de faire, faites-le, quoi.
Il y a une dernière chose de quoi je voudrais parler. C'est un autre atelier aussi qui est dans votre programme. Vous appelez les nouvelles formes de conflictualité et qui sera suivi d'un jeu de résolution de conflits. Alors, ça sonne un peu comme un truc de geek, parce que, mais moi, je sais très bien ce que c'est, parce que j'en ai fait des millions quand j'étais en études aussi. Genre, on nous enfermait 2 heures dans une salle, on nous donnait une situation, genre le président nord-coréen a disparu, vous avez 2 heures pour trouver une solution avec tous vos partenaires européens, et voilà. Est-ce que ça va être un truc dans ce genre ?
Moi, je n'ai pas participé à l'exercice, mais en fait, la personne qui organise ça, c'est... Enfin, il a créé le jeu sur mesure pour le festival. Mais a priori, c'est dans ce style-là.
D'accord, donc faites attention parce que vous allez devoir faire marcher votre cerveau, ça va être très bizarre. Merci beaucoup Margot, merci Tara d'avoir été avec nous. Est-ce que vous pouvez rappeler les informations ? Parce que moi, je vais dire des bêtises si je l'ai dit. Alors, le festival Les Tropicantes, vendredi.
Vendredi de 10h à 1h du matin, sur le campus du Bois de Vincennes, à Nogent-sur-Marne. Avec plein de bénévoles hyper motivés et des gens incroyables.
Est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est payant ?
Alors c'est prix libre jusqu'à 18h et à partir de 18h, 5 euros.
Donc venez tôt si vous ne voulez pas payer d'argent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est l'heure de se quitter. Merci à Yacine d'avoir été notre invitée en première partie. Merci à Elodie pour sa chronique capillaire. Et merci à Adèle qui est toujours le meilleur réalisateur de la sphère radiophonique malgré l'été qui est passé entre nous. C'était le dernier apéro de l'été 2018, ce qui veut dire que dès lundi, vous retrouverez l'équipe de la matinale pour attaquer une nouvelle année. François sera aux commandes, donc ne ratez pas ça, il sera en pleine forme. C'était un plaisir de passer cette journée au goût estival avec vous. Bonne soirée et bonne fin de semaine à toutes et à tous.